Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Un rituel parlementaire parmi les plus admirables du monde, transformé en trampoline. L'étalage de passions et de rancunes rassis en lieu et place des hypocrisies d'usage. Un premier ministre qui se prend pour Churchill tout en excluant de son parti le petit-fils du vieux lion. Le leader de l'opposition qualifié, je cite, de « poulet chloré » qui renacle à l'idée d'aller aux élections et éventuellement au pouvoir. Que se passe-t-il donc au Royaume-Uni? Voilà plus de 3 ans que le Brexit lui fait tourner la tête et nous donne le tournis, ajoutant au dérèglement de nos démocraties en proie au ferment populiste, divisant les Britanniques jusqu'à l'obsession, paralysant l'Union européenne qui a pourtant bien d'autres priorités face aux impatiences des peuples. La semaine a été dure pour Boris Johnson, incarnation échevelée d'un populisme bien né, qui découvre que le système parlementaire se rebiffe et que les élites politiques dont il est issu lui tiennent tête. Les deux grands partis traditionnels en sont à jamais transformés. Les tribulations britanniques sont tout aussi éprouvantes pour l'Union européenne et pour ceux des partenaires, à commencer par la France, qui accélère leurs préparatifs en cas de sortie sans accord. Que va-t-il donc se passer à partir de lundi? Quels sont les scénarios les plus probables? Élection générale, prolongation du calendrier du retrait, flexibilité accrue du côté de Bruxelles ou plongeon comme prévu de la falaise de Douvres le 31 octobre prochain? C'est ce que nous allons découvrir ce matin grâce à vous, Jonathan Fanby. Merci mille fois d'être au téléphone avec nous depuis Londres. Vous êtes écrivain, ancien directeur du journal The Observer, directeur général, cofondateur de Trusted Sources. À Paris, avec moi en studio, Vivien Pertuseau, vous êtes chercheur associé à l'IFRI et vous avez été longtemps le responsable de l'IFRI à Bruxelles. Et d'ailleurs, vous avez contribué déjà plusieurs fois à cette émission. Thibaut Arroy, ravi de vous accueillir. Vous êtes maître de conférences en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Au téléphone, Agnès-Alexandre Collier, vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne et vous êtes en délégation du CNRS à la Maison française de l'Université d'Oxford. Et par téléphone aussi, notre ami Ian Begg, qui est professeur à l'Institut européen de la London School of Economics et qui a créé la fondation d'Arendorf au sein de la LSI. Jonathan Fanby, merci mille fois d'être au téléphone avec nous de Londres. Racontez-nous, quelle est l'ambiance au terme de cette folle semaine?
Oui, je crois qu'il faut dire que l'Angleterre, normalement connue pour sa calme, est vraiment de plus en plus survoltée en ce qui concerne, pas seulement le Brexit, mais vraiment ce qui devient un conflit entre deux différents groupes dans le pays et surtout entre le Premier ministre et la majorité qui est contre lui ou contre une sortie sans accord de l'Union européenne.
Et là, ce qui est très curieux aussi, c'est le déchaînement de la presse, y compris oui. La presse conservatrice qui appartient pour une large part à Rupert Murdoch et qui en veut aussi à Boris Johnson.
Absolument. Et, le Premier ministre a très peu des défenseurs actuellement. Il y a le Daily Telegraph qui est devenu peut-être le journal le plus brexiteer de tout en ce moment, qui dirige ses feux contre Jeremy Corbyn et le Parti travailliste plutôt. Mais Johnson, il a peu des supporters dans les médias actuellement.
Et même dans sa propre famille, puisqu'on a appris donc avant-hier que son frère cadet, qui était, je crois, secrétaire d'État aux universités, a dans un tweet affirmé que l'intérêt national était plus important que la fidélité familiale, en quelque sorte.
Oui, oui, le frère cadet, Joe Johnson, qui avait déjà démissionné du gouvernement de Theresa May parce qu'il voulait un deuxième référendum. Ça a été un peu surprenant qu'il a pris un poste dans le nouveau gouvernement de son frère. Mais hier, son tweet a vraiment fait boom, explosion sur la classe politique et aussi sur les médias. C'est la une de beaucoup des journaux aujourd'hui. Et ça met le côté, si vous voulez, personnel dans cette lutte politique à laquelle on assiste en Angleterre actuellement.
Et ce qui est très curieux aussi pour nous autres de l'autre côté de la Manche, habitués encore une fois à une certaine politesse, parfois surannée dans le langage politique britannique, c'est qu'on entend un Premier ministre dire plutôt crever dans le fossé que demander à Bruxelles un report du Brexit. Il y a une violence dans le langage qui est véritablement nouvelle.
Oui, absolument. Il y a eu une violence croissante depuis plusieurs mois. Je dois dire surtout du côté des gens pour le Brexit. Est-ce que c'est qu'ils pensaient qu'ils perdaient un peu le jeu ou est-ce que ils pensent que cet langage, ça va faire appel au peuple qu'ils prétendent défendre contre the establishment, l'élite représentée par la majorité maintenant à la Chambre des communes et surtout par les 21 membres du Parlement conservateur qui ont voté contre le gouvernement cette semaine et qui sont vraiment fustigés comme des traîtres, comme des collaborateurs de l'Europe, comme des gens complètement hors de circuit. Et cette violence, ça va dans le presque dans la vie quotidienne maintenant en Angleterre. Et c'est peut-être là, c'est plus sérieux que le Brexit elle-même.
Merci Jonathan pour cette plongée dans l'ambiance à Londres ce week-end. Thibaut Arroy, quels sont les tout derniers développements? Donc finalement, on a vu ce Premier ministre qui est au pouvoir depuis un peu plus d'un mois, qui fait sa première intervention au Parlement et qui reçoit coup sur coup trois camouflets très violents et après avoir promis un Brexit à tout prix, do or die, là, on a l'impression que véritablement, il est dans un canal qui se rétrécit de plus en plus.
Oui, tout à fait. Donc, Boris Johnson est arrivé au pouvoir, comme vous le disiez, le 23 juillet, hein, pendant l'été. Il a remplacé Theresa May à la tête du Parti conservateur et est devenu le nouveau Premier ministre.
Theresa May, il faut le rappeler, qui avait perdu à trois reprises le vote à la Chambre des communes pour faire approuver l'accord qu'elle avait laborieusement négocié.
En novembre dernier, voilà. Et Johnson a promis de sortir coûte que coûte le 31 octobre de l'Union européenne. Seulement, à la fin de l'été, juste avant la rentrée parlementaire, il a annoncé, donc fin août, qu'il était prêt à suspendre le Parlement entre le 9 septembre et le 14 octobre pendant
donc
5 semaines.
Donc le 9 septembre, c'est lundi.
C'est lundi.
Donc exactement. Lundi soir, et ça c'est l'habitude, hein, ce n'est pas véritablement, enfin c'est peut-être un coup de force, néanmoins le Parlement britannique s'interrompt toujours pour permettre aux deux grands partis de tenir leur congrès.
Tout à fait. Alors là, la période est un peu plus longue que d'habitude. D'habitude, la période des congrès dure 3 semaines et cette fois-ci, l'interruption durerait 5 semaines avec une prorogation du Parlement qui n'est pas non plus très surprenante puisqu'on change en fait de législature. Mais et ça, c'est régulier avec un nouveau discours de la reine qui est attendu. Cependant,
malheureuse reine.
Mais la période est plus longue que d'habitude, et c'est ça qui a beaucoup choqué dans l'opinion publique et qui a fait qu'on a parlé de coups, alors que bon, voilà, c'est peut-être.
Alors Boris Johnson, lui, on a compris au terme de cette semaine, il veut des élections, et on sait depuis hier après-midi qu'en fait l'opposition n'en veut pas.
Exactement. Qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'au Parlement, c'est le Parlement qui a repris. La main sur l'agenda politique. Donc d'abord en contraignant le Parlement de décider sur une loi qui obligera Boris Johnson à demander un report du Brexit à l'Union européenne.
Donc une loi pour éviter le Brexit sans accord.
Voilà, exactement.
Brexit sans accord. promis par
Boris Johnson, exactement. Donc cette loi est passée pendant la semaine aux communes, ensuite à la Chambre des Lords, et maintenant Boris Johnson, normalement, on sera lundi, mais elle revient aux communes, mais sera vraisemblablement contraint de respecter cette loi, et donc de demander un report à l'Union européenne. À condition que l'Union européenne l'accorde.
Donc un report du fameux article 50. Donc il faut quand même rappeler qu'il y avait une première date qui était, si ma mémoire est bonne,
le 29 mars.
En mars dernier. Ensuite, le 31 octobre.
Voilà. Et maintenant, ça serait fin janvier 2020.
D'accord. Donc, quels sont les scénarios possibles lundi?
Alors, ce que Boris Johnson espérait, c'était de proposer la dissolution du Parlement pour organiser de nouvelles élections. Pour cela, il a besoin du soutien de 2/3 des députés. Il ne peut pas décider seul, il a besoin du soutien d'une majorité qualifiée de 2/3 des députés à la Chambre des communes, c'est-à-dire 434 voix. Et on a vu la semaine dernière, enfin, ou cette semaine, qu'il en était loin d'obtenir ces 434.
D'autant qu'il a exclu de son propre parti 21 députés, dont certains extrêmement vénérables, et qui représentent véritablement le centre-droit britannique.
Mais même s'il avait tout son parti, même s'il n'avait pas fait procéder à cette exclusion, il faut le soutien d'une partie de l'opposition. Et ça, c'est exclu, comme vous venez de le rappeler. Les partis d'opposition ont déclaré vendredi qu'ils s'opposaient à l'organisation de ces nouvelles élections dans un calendrier qui serait encore dans les mains de Boris Johnson.
Pourquoi ? Donc ils veulent obtenir, et surtout le parti travailliste, mais aussi les libéraux-démocrates, ils veulent d'abord être sûrs que la loi empêchant le no deal passera bien lundi.
C'est ça. Exactement, ils veulent être sûrs de cela, et ils n'ont pas non plus confiance en Boris Johnson et dans le fait que peut-être que Boris Johnson pourrait ne pas respecter cette loi, qu'il pourrait éventuellement passer outre et continuer dans sa lancée d'une sortie sans accord.
Donc les scénarios se rétrécissent, mais Boris Johnson, avec son côté culbuto, peut-il encore sortir quelque chose de sa manche?
Alors là, on rentre dans des choses qui sont difficiles à deviner, mais vraisemblablement, il semble quand même contraint maintenant par le Parlement. On peut envisager qu'il finalement se résolve à demander un report du Brexit, voilà, en obéissant à la loi, ou bien qu'il démissionne dans le but de provoquer l'organisation de nouvelles élections, mais avant cela même peut-être négocier avec d'autres l'organisation d'un nouveau gouvernement.
En tout cas, il n'a plus de majorité.
Par contre, l'opposition reste divisée. Donc, on a du mal à voir comment tout cela pourrait s'organiser dans l'avenir.
Alors partons pour Oxford, vous rejoindre. Bonjour Agnès-Alexandre Collier, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes au CNRS, vous êtes en ce moment à Oxford, donc vous vivez véritablement une période de choix, vous qui vous intéressez au populisme britannique et au système politique. Donc commençons par le Parti conservateur, c'est véritablement une guerre civile au sein du Parti conservateur britannique.
Absolument, c'est une guerre civile qui est en train d'ailleurs d'être plutôt larvée, puisque la stratégie décidée par Boris Johnson est d'éliminer tous les frondeurs. Donc c'est une stratégie un peu radicale, parce que le parti conservateur a toujours été ce qu'on a appelé une broad church, c'est-à-dire une large organisation avec des sensibilités très différentes, et là la décision d'éliminer une vingtaine de rebelles fait que le parti conservateur est en train d'évoluer. Mais ces divisions...
C'est poliment dit, parce que là, c'est véritablement à la hache que
tout à fait.
Que Boris Johnson a agi.
Absolument, c'est à la hache. Il a promis un parti unifié et en quelque sorte, il a tenu ses promesses puisqu'on va avoir un parti unifié autour d'un hard Brexit, très vraisemblablement.
Il faut rappeler néanmoins que la question européenne divise les conservateurs britanniques depuis toujours.
Absolument. C'est depuis 40 ans, en fait, la question européenne est source de clivage interne extrêmement aigu. On l'a vu au moment dans les années 70, au moment de l'entrée du pays dans ce qu'on appelait le marché commun, avec un premier ministre conservateur qui était pro-européen, Edward Heath, c'est quand même une poignée de rebelles qu'on a appelés à ce moment-là les anti-marketeers, qui étaient opposés au marché commun. Et en fait, les étiquettes ont changé, évolué, mais cette faction d'opposants, qu'on a appelé les anti-marketeers dans les années 70, ensuite les eurosceptiques dans les années 90, et qu'on appelle aujourd'hui les hard Brexiteurs, sont un peu toujours ces espèces de frondeurs qui refusent en fait l'évolution de l'intégration européenne et qui aujourd'hui disent tout simplement l'Union européenne telle qu'elle existe ne nous intéresse plus. Et là, on est effectivement dans une forme de radicalisation avec Boris Johnson qui est prêt à accepter une sortie sans accord, ce qui est quand même quelque chose d'assez formidable, puisque au moment du référendum de 2016, les Britanniques n'ont pas forcément voté pour un Brexit sans accord. Hein. La plupart des partis qui ont soutenu le Leave ont fait campagne, y compris le UKIP d'ailleurs, ont fait campagne pour la nécessité justement de négocier un accord qui soit favorable avec les partenaires européens.
Donc face à ce parti conservateur dont ont été exclus donc 21 députés représentant plutôt ceux qu'on appellerait chez nous le centre droit, face à ce parti conservateur, il y a un parti travailliste qui lui aussi est tout aussi divisé sur l'Europe et sur le Brexit.
Tout à fait, le parti travailliste est très divisé. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que l'évolution des deux grands partis britanniques est assez spectaculaire, parce que les travaillistes étaient le parti anti-européen dans les années 70, alors que les conservateurs étaient the party of Europe. Donc on a effectivement deux trajectoires totalement inversées, avec aujourd'hui deux partis qui sont fondamentalement divisés et un parti travailliste qui est même divisé à sa tête, puisque peu de Britanniques savent vraiment qui est Jeremy Corbyn, ce qu'il pense. Ce qu'on sait, c'est que dans les années 90, il était un eurosceptique très convaincu. Il a fait campagne contre le traité de Maastricht. Et le voilà à la tête d'un parti qui se dit pro-européen désormais. Il est obligé d'incarner en fait ce nouveau style de leadership auquel il n'adhère peut-être pas personnellement. Donc on a quand même une situation extrêmement ambiguë pour le parti travailliste. Qui le met dans une situation aussi très complexe par rapport à de nouvelles élections.
Pourquoi est-ce que Boris Johnson l'a qualifié de poulet chloré ? D'où vient cette expression bizarre ?
Alors là, je n'en sais rien. Je ne peux pas. Ce que je sais, c'est que la notion de poulet, en fait, est souvent évoquée en ce moment pour décrire la stratégie de Boris Johnson, le jeu du poulet, qui consiste en fait, qui intéresse beaucoup les stratégiciens du jeu, en fait. Hein. La stratégie de Boris Johnson fait l'objet de beaucoup d'articles scientifiques, et notamment en fait cette stratégie-là. Tout comme une autre stratégie qui consiste à lancer deux voitures l'une contre l'autre avec l'idée que si la voiture qui conduit en fait reste au volant jusqu'au bout, l'autre fera nécessairement une embardée. Et on a là l'idée que Boris Johnson est quand même un premier ministre bookmaker, en quelque sorte, qu'il est prêt à lancer toutes sortes de paris les plus risqués, les plus dangereux pour son pays, pour pouvoir justement gagner les négociations avec les partenaires européens.
Alors on a vu il y a quelques jours Tony Blair donner une interview extrêmement éloquente. On n'a pas oublié l'éloquence de Blair, même s'il a perdu dans l'opinion publique britannique beaucoup de crédit depuis la guerre en Irak. Et Blair expliquait qu'il ne faut surtout pas que les travaillistes, c'est-à-dire son ancien parti, tombent dans ce piège à éléphant qui consistera à accepter des élections. Et on sait donc, depuis hier après-midi, que l'opposition, aussi bien travailliste que les Lib Dems, vous allez d'ailleurs nous expliquer ce que sont les Lib Dems, ils ne veulent pas d'élections. Donc là, Boris Johnson est de nouveau pris aux pattes, tel le poulet.
Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et comme l'a expliqué mon collègue Thibault Arroy, en fait, le problème des élections, c'est plutôt une question de calendrier. C'est-à-dire que les travaillistes ne veulent pas d'élections dont le calendrier serait entièrement aux mains de Boris Johnson, parce qu'ils ont peur justement que ces élections aient lieu après le 31 octobre, une fois que Boris Johnson aura fait quitter le pays de l'Union européenne sans accord. C'est-à-dire que c'est ça toute l'ambiguïté. Ils veulent justement que avoir la promesse que qu'il y aura un accord avec l'Union européenne pour pouvoir...
Et donc ça, pardon, je vous interromps, mais pour qu'on comprenne...
Ça, c'est la première chose, la maîtrise du calendrier. Et la deuxième chose, c'est bien sûr les sondages. On est quand même dans une situation, il faut le rappeler, où Boris Johnson reste l'une des figures les plus populaires du Royaume-Uni. Il arrive en tête avec 31% d'opinion favorable contre à peu près 26 ou 27% pour Jeremy Corbyn. Et le Parti conservateur, au dernier sondage, est encore en tête avec, je crois, à peu près 34% d'opinion favorable contre 22% pour les travaillistes. Donc, il est clair que les travaillistes ne souhaitent pas forcément des élections législatives qui ont toutes les chances de voir aboutir, d'aboutir au succès des conservateurs et Boris Johnson, et qui pourrait même renforcer encore sa majorité. Il y a un sondage assez récent aussi qui prétend qu'en cas d'élection législative, les conservateurs pourraient même obtenir une majorité d'environ une quarantaine de sièges. Alors bien sûr, c'est un sondage qui a été conduit avant l'exclusion des 21 rebelles, donc bon, il faudrait voir ce que ça donne aujourd'hui. Toujours est-il que les conservateurs sont encore en tête, et donc c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on a une situation politique qui reste quand même assez intenable, avec un premier ministre et un parti qui est absolument détesté par une partie importante de la population, notamment ceux qui ont bien sûr voté contre le Brexit, mais qui pour autant ne vont pas adhérer à un parti travailliste dont le leader est vu comme quelqu'un d'assez radical, Jeremy Corbyn. Hein, il a effectivement une image aussi un peu de gauchiste révolutionnaire qui à mon avis est un peu excessif au regard de notre vie politique française, mais bon, c'est en tout cas l'image qu'il a au Royaume-Uni, et donc ça, voilà, on est dans une espèce d'impasse. Quant au Parti libéral-démocrate, puisque vous m'avez posé la question, alors c'est un parti assez intéressant parce que c'est une alliance au départ entre un petit parti libéral qui était tombé un petit peu en désuétude dans la vie politique britannique, et puis le SDP, qui est une faction qui a été créée par des rebelles travaillistes. Donc c'est une espèce de parti un peu hybride, qui a toujours été considéré comme le tiers parti de la vie politique britannique.
Et qui a toujours été, pardon je vous interromps, mais qui a toujours été desservi par un mode de scrutin. Un mode de scrutin très différent d'une autre, donc uninominal à un tour, et qui favorise les deux grands partis. Donc ils ont très peu de chances de représenter une force importante à la Chambre des communes.
Voilà, donc le mode de scrutin, comme vous l'avez dit, est quelque chose qui détermine le bipartisme britannique et qui ne risque pas d'être réformé, parce que les Britanniques ont eu un référendum en 2011 et ils ont refusé la réforme du mode de scrutin. Donc ils vont rester avec le scrutin majoritaire uninominal à un tour pendant encore assez longtemps. Et donc ça a toujours été défavorable aux tiers partis, dont les libéraux-démocrates. Mais ce qui a aussi joué énormément contre eux, c'est que les libéraux-démocrates ont formé une coalition gouvernementale avec les conservateurs de Cameron en 2010 et ont dû renoncer à un certain nombre de leurs politiques favorables aux étudiants, favorables aux minorités et en particulier à l'Europe, puisque c'était quand même le seul parti très pro-européen des chiffres politiques. Mmh.
Ils ont d'ailleurs gagné beaucoup de sièges au Parlement européen, hein, avec un autre mode de scrutin. Oui.
Absolument. Et ils sont en train d'essayer de se réinventer sur la base autour de l'image du seul parti pro-européen, de la seule alternative pro-européenne au Royaume-Uni. Ce qui les rend assez peu crédibles, enfin, dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, le mode de scrutin fait que, ils risquent pas d'obtenir énormément de sièges, en tout cas pas suffisamment pour évidemment remporter les élections législatives.
Agnès, restez en ligne avec nous.
Oui.
Nous allons rejoindre votre collègue Ian Begg à la London School of Economics. Bonjour Ian, expliquez-nous.
Bonjour Christine.
Comment les marchés et comment la livre sterling réagit à cet extraordinaire tumulte de votre vie politique.
Il bascule, parce que s'il y a des signes que Boris Johnson va perdre, la livre monte. S'il y a des possibilités de no deal, la livre est en chute. Donc, c'est très variable selon les derniers échos dans la vie politique.
Et les marchés financiers suivent les mêmes oscillations que la devise, ou est-ce que ils parient davantage sinon sur le moyen terme, en tout cas d'une semaine sur l'autre?
Oui, parfois ils font le contraire, parce que une grande nombre des sociétés dans le FTSE 100, donc la liste des plus grandes entreprises sur le marché à Londres.
Oui, l'équivalent du CAC 40, quoi.
Voilà. Ils ont la plupart de leurs bénéfices viennent d'ailleurs. Donc, si la livre est en chute, les bénéfices augmentent. Et du coup, il y a une remontée de l'index.
Jusqu'à quel point est-ce que les milieux d'affaires, les milieux du business sont ou non excédés par ces jeux politiques qui négligent assez largement, et ce depuis 3 ans maintenant, les intérêts économiques du pays?
Ils en ont ras le bol, parce que ça crée l'incertitude. L'incertitude nuit à l'investissement, et c'est pour ça que presque tout le monde dans le secteur des affaires souhaite qu'on en termine.
Alors, on a vu que hier, une femme d'affaires militante anti-Brexit, qui s'appelle Gina Miller, avait déposé une action en justice pour que Boris Johnson soit condamné dans ses tentatives de museler le Parlement. Elle a perdu. La Haute Cour de justice a rejeté cette demande d'annuler la suspension du Parlement. Donc, ça veut dire, et c'est tout le paradoxe, que les institutions britanniques, que ce soit le Parlement, la Chambre des Lords, et les cours de justice, continuent, en quelque sorte, à maintenir un certain nombre de règles, quelles que soient les convulsions.
Oui, mais je crois que déjà ce que propose Gina Miller est dépassé par les événements de cette semaine dans la Chambre des communes. Donc le fait qu'on a la loi qui oblige Boris Johnson à demander une prolongation de l'article 50 veut dire que ce qu'il a fait en la suspension du Parlement est déjà dépassé.
Mmh. Et donc, cette loi donc, qui va interdire un Brexit sans accord doit retourner à la Chambre des communes lundi. C'est à peu près la seule certitude que l'on a à ce stade.
Oui, mais je crois que les partis qui s'opposent à Boris Johnson se sont mis d'accord cet après-midi sur le fait d'avoir pas avoir d'élection avant le 31 octobre. Donc ils attendent la décision du Conseil européen du 17 octobre. Et ça évolue d'heure en heure en ce moment.
Alors, ça évolue d'heure en heure. Yann, merci de rester en ligne avec nous. Vivien Pertuso, bonjour. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IFRI. Vous signez d'ailleurs dans le RAMSES, qui est le gros rapport annuel de l'IFRI, le chapitre concernant le Brexit. Un tour de force, parce que vous essayez d'ébaucher des scénarios. Et c'est évidemment un exercice difficile. Michel Barnier, qui demeure donc le négociateur européen face aux Britanniques, a laissé entendre aux 27 ambassadeurs il y a quelques jours que les discussions sont au point mort, bien évidemment, quoi qu'en ait prétendu le représentant britannique. Quelles sont aujourd'hui les réactions des 27 face à ce psychodrame qui n'en finit pas de l'autre côté de la Manche?
Il y a une forme de lassitude à force. Hein. C'est quand même assez frappant de voir que finalement, au niveau des 27, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas une panique particulière. Malgré l'arrivée de Boris Johnson, malgré toutes les sorties qu'il a pu faire, les tribulations qu'il peut faire, etc., il n'y a pas de panique. On continue sur la même trajectoire que ce qui était en place depuis juin 2016. Hein. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de vagues hein, au niveau européen depuis juin 2016, depuis le référendum britannique. Néanmoins, il y a quelque chose qui est en train de changer, plus au niveau des institutions. Et ça, on l'a vu par quelque chose qui... peut-être pas très médiatique, mais peut-être assez technique, mais c'est le sixième paquet que la Commission a sorti il y a quelques jours pour préparer l'Union européenne à une sortie de l'Union européenne et potentiellement sans accord. En fait, c'est vraiment important pour une raison assez simple, c'est que aujourd'hui, à Bruxelles, la position par défaut, c'est que les Britanniques vont sortir sans accord. Et ça, c'est quand même assez marquant, parce que ça n'a jamais été une position, alors c'est pas revendiqué comme telle, mais ça n'a jamais été une position qui a été défendue ou même qui a été revendiquée. Et encore une fois, hein, toute la commission, tout le monde dit ce serait un scénario catastrophique, tout le monde y perdrait, etc., etc. Mais on voit bien que la position de l'Union européenne, de la commission et des États membres est en train de changer, de dire il faut se préparer à ça, ça semble plus probable qu'une sortie du Royaume-Uni avec un accord.
Et ça, c'est et donc ça veut dire un encouragement de la part de la commission à chacun des États membres pour continuer à se préparer à un hard Brexit. J'ai vu d'ailleurs que c'est considéré comme une catastrophe naturelle puisque on pourrait faire appel au fonds spécial européen d'adaptation à la mondialisation, je savais même pas que ça existait, et un autre fonds spécial pour les situations d'urgence.
Tout à fait. Oui, c'est en fait on se retrouve dans une situation qui est vraiment complètement ubuesque. Hein. Faut quand même pas sous-estimer la situation. En fait, ça fait longtemps que les États membres, beaucoup d'États membres se préparent, donc il y a des mesures de contingence qui ont été mises en place dans la plupart des États membres. La France est probablement le pays qui s'est le mieux préparé à ça. Néanmoins, il y a une forme de lassitude aussi qui s'est créée dans à la fois les administrations nationales, mais même les entreprises également. C'est-à-dire que les entreprises se sont beaucoup préparées en début d'année, etc., pour rattraper leur retard. Beaucoup étaient en retard.
Et puis, il y a eu du relâchement.
Il y a eu du relâchement, forcément. Alors, un report, un deuxième report, et puis après, au mois d'octobre, et puis jusqu'à quand ça va continuer. Et donc là, peut-être qu'il y a aussi cette volonté de créer de l'urgence aussi bien vis-à-vis des administrations nationales que des entreprises pour dire ça peut arriver, ça va probablement arriver d'ailleurs, et donc il faut vous préparer. Ce qui est assez intéressant dans la communication de la Commission européenne, c'est un, effectivement, l'utilisation potentielle de ces fonds et donc le fait que le Brexit est considéré comme une catastrophe naturelle, hein, faut quand même, c'est quand même assez frappant, et aussi le fait qu'ils ont préparé une checklist. Donc il y a une checklist, donc c'est un document de 6-7 pages pour les entreprises pour dire est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça, etc., etc., pour dire là, vous devez vous préparer et sinon, potentiellement, ça va avoir des ramifications économiques très fortes pour vos entreprises.
Et pendant ce temps-là, à Londres, le gouvernement de Boris Johnson prétendait d'un côté que les négociations continuaient et en coulisses reconnaissait que tout ça c'était bidon.
Oui, de toute manière, là, on est...
Cham, comme ils disent.
Ah ben, totalement. Enfin, là, on est vraiment dans la politique spectacle. Totalement.
Et ça concerne en particulier Thibault Haroy, ce fameux backstop, donc qui concerne une éventuelle frontière entre les deux Irlandes, avec tous les dangers que ça représente en Irlande du Nord, la fragilisation des accords du Vendredi Saint qui avait mis un terme à une affreuse guerre civile et religieuse. Ce backstop... En deux mots, c'est quoi ?
Alors c'était une partie du traité qui avait été justement négocié en novembre dernier afin de maintenir une frontière ouverte sur l'île d'Irlande. Parce que naturellement, quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, il y aura une frontière terrestre entre la République d'Irlande, qui restera un des 27 États membres, et le Royaume-Uni, donc l'Irlande du Nord faisant partie du Royaume-Uni, il y aura une frontière qui normalement devrait être une frontière fermée. Sauf... Voilà, dans ce cas-là, l'Union européenne a demandé à ce que cette frontière reste ouverte en disant que, alors à l'origine, c'était lié aussi à cette période de transition qui était inclue dans le traité. C'est-à-dire qu'il y avait une période de transition pendant laquelle on devait trouver une solution, éventuellement, pour maintenir...
En maintenant l'union douanière.
En maintenant voilà. L'union douanière pendant une période pour pouvoir trouver une solution à ce problème de la frontière. Cependant, s'il n'y avait pas de solution, alors on forçait le Royaume-Uni à rester dans l'union douanière de manière à ce que la frontière reste ouverte. Mais ça, pour le Royaume-Uni, c'est quelque chose d'inacceptable parce que ça sous-entendait que le Royaume-Uni ne pouvait pas négocier de traités de libre-échange comme il l'entendait avec d'autres États.
Et donc, ça a été l'argument de Boris Johnson en disant jamais, jamais. Mais on voit aussi, depuis deux jours, que non seulement le problème irlandais reste entier, mais que l'Écosse se réveille. Et la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré que, bien évidemment, si il y a Brexit ou si le Capharnaüm continue, les Écossais vont à nouveau demander l'indépendance. Donc c'est véritablement le Royaume-Uni qui risque une dislocation.
Tout à fait. Bon, on faut souvenir que l'Écosse a déjà organisé un référendum sur l'indépendance en 2014, référendum qui a été perdu par les indépendantistes. Et au moment du Brexit, l'Écosse est la seule région avec l'Irlande du Nord à avoir voté pour rester dans l'Union européenne. Et à partir de là, Nicola Sturgeon, qui est la première ministre écossaise, mais qui est aussi du parti indépendantiste, a tout de suite déclaré que l'Écosse allait demander à nouveau son indépendance. Elle a fait cette demande un peu tôt, peut-être, mais aujourd'hui...
Et là, elle l'a répété.
Et voilà,
elle a une interview à différents journaux européens
hier. Elle le répète,
hier.
Et c'est une manière aussi de lancer cette campagne, qui devra être une campagne certainement un peu longue, parce qu'on le référendum a quand même été perdu assez largement par les indépendantistes en 2014, donc il y a quand même un travail certainement assez long à faire pour convaincre l'opinion publique écossaise de choisir l'indépendance. Mais c'est une possibilité dans les années à venir, en effet, de voir l'Écosse s'éloigner du Royaume-Uni pour se rapprocher de l'Union européenne,
parce que le but, c'est d'être indépendant pour y rentrer. Rester et y rentrer.
Mais voilà, la question, c'est ça. Est-ce qu'on peut y rester? Est-ce qu'il faudra demander une nouvelle adhésion? Bon, ça reste encore à trancher, ça.
Hamda Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef, Courrier International, notre partenaire, et vous vous êtes intéressée, à travers différents papiers de la presse britannique et internationale, à un personnage qui est véritablement l'espèce de cerveau de Boris Johnson, à la manœuvre, qualifié tantôt de Svengali par la presse britannique, enfin David Cameron, qui d'ailleurs se tait depuis, a dit carrément que c'était un psychopathe, et il s'agit de Dominic Cummings. Et qui est Dominic Cummings?
Alors, c'était l'homme de l'ombre, celui par qui la victoire du camp pro-Brexit est arrivée. Alors, Dominic Cummings a été nommé conseiller spécial par Boris Johnson et il est maintenant incontournable dans son entourage, assure le quotidien britannique The Daily Telegraph, un quotidien pro-Brexit, comme le rappelait tout à l'heure Jonathan Fenby. Il est si puissant, ce Dominic Cummings, qu'il peut faire limoger une conseillère d'un ministre sans même que celui-ci soit prévenu. Et ça a d'ailleurs fait les gros titres de la presse britannique ces derniers jours. Alors, Dominic Cummings, c'est un personnage obsédé par les échecs, passionné de science et qui voue un culte à Otto von Bismarck. Il a longtemps travaillé comme conseiller du ministre de l'Éducation et il déteste par-dessus tout l'ancien premier ministre conservateur David Cameron. Pas étonnant que celui-ci ne l'aime pas non plus. Toutes ces informations, c'est le site bruxellois et pro-européen Politico qui nous les révèle. Le site ajoute « Pour qui veut savoir dans quelle direction le Royaume-Uni se dirige sous Boris Johnson, il faut regarder du côté de l'homme le plus puissant de son équipe qui a le bureau voisin du Premier ministre. » Alors que Cummings ne passe pas inaperçu dans l'entourage de Johnson, nous dit le site de centre-droit Reaction qui lui consacre un long portrait. Contrairement à tous ceux qui entourent le Premier ministre, Cummings est toujours en jean et en t-shirt. Il méprise beaucoup de monde dans l'univers du pouvoir, les technocrates, les parlementaires, les fonctionnaires, qui sont tous, selon lui, des incompétents, uniquement préoccupés par leur statut social. Et malgré son parcours plutôt doré, diplômé d'Oxford, marié avec une aristocrate, il voue une haine sans limite aux élites. Le site Reaction, qui est pourtant pro-Brexit, relève l'ambiguïté. Pour un type qui gravite dans les hautes sphères tout en détestant les élites, le voilà qui se retrouve à la colle avec l'un des hommes les plus ambitieux à avoir jamais occupé le 10 Downing Street.
L'autre personnage à surveiller et qui préoccupe véritablement Boris Johnson, parce que il se livre à une surenchère sur sa droite, c'est Nigel Farage, on s'en souvient, donc l'ancien dirigeant de l'UKIP qui a rebaptisé son parti le Brexit Party.
Oui, tout à fait. Nigel Farage est de retour et il est plus remonté que jamais. Enfin, ce n'est pas comme s'il était jamais parti, ironise le journaliste politique Tom Peck dans The Independent. Farage est en colère contre Johnson, contre les Remainers, ceux qui veulent rester dans l'Union, contre tout le monde et encore plus sur la possibilité d'un deal sur le Brexit, écrit le journaliste, qui rappelle que le leader du Brexit Party est à l'origine du slogan « We want our country back », nous voulons récupérer notre pays. Alors, qui est le vrai Nigel, s'interroge le journaliste, qui se souvient d'un temps où le membre fondateur de l'UKIP était considéré comme plutôt inoffensif. Est-ce un bonhomme sympathique ou le disciple de Steve Bannon à la tête d'un groupe de politiciens franchement terrifiants qui cherchent à abattre les démocraties occidentales ? En tout cas, celui qui a pour première cible l'Union européenne siège depuis 20 ans au Parlement européen. Lors de la reprise du Parlement après les élections dernières, du 26 mai, le jour de la reprise, le 2 juillet, les représentants du parti du Brexit, menés par Farage, ont tourné le dos à l'orchestre chargé de jouer l'ode à la joie de Beethoven, rappelle le Daily Telegraph. Et ce parti, qui s'est constitué donc quelques semaines seulement avant le scrutin du 26 mai, a remporté quand même 30% des sièges britanniques. Farage a réussi la prouesse de ringardiser son propre ancien parti, le UKIP, relève l'hebdomadaire conservateur The Spectator, et il a réussi à marginaliser ce parti en le disant trop proche de l'extrême droite. Mais Farage séduit aussi des électeurs traditionnels du Parti conservateur. Et si Johnson se retrouve face à des élections, ou si même s'il veut mener le Brexit à bien, il faudra qu'il compte avec l'éternel poil à gratter de la politique britannique.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Ian Begg, quels que soient les scénarios politiques, et il est vrai qu'on s'y perd et surtout on hésite à prédire quoi que ce soit, même pour après-demain lundi, on se souvient qu'il y a eu une fuite qui a fait grand bruit en Grande-Bretagne, une fuite des notes de Whitehall, que à peu près l'équivalent de notre ministère de l'Intérieur, révélant l'énorme retard pris par les entreprises et les administrations britanniques en cas de Brexit sans accord, avec le risque de pénurie en matière de médicaments pour certains aliments. Jusqu'à quel point est-ce que plus ce psychodrame dure, plus l'opinion publique s'inquiète des conséquences d'une sortie?
Bien sûr, le public s'inquiète, surtout sur les questions de médicaments ainsi que les importations de ceux qui consomment. Mais j'ai vu la semaine passée que le gouverneur de la Banque d'Angleterre a dit qu'il a vu que les préparations se sont améliorées et du coup, il nous indique que les difficultés économiques sont en baisse. Il prévoit peut-être 5% de perte de PIB par rapport à ce qui aurait lieu ailleurs, au lieu de 8%. Donc, ça s'améliore.
Et qu'est-ce qui explique tout à coup cette embellie dans les prévisions?
C'est le fait que le gouvernement a mis en cours des raisons de traiter les difficultés qu'on prévoit. Donc, ils ont dépensé 3-4 milliards de livres pour faire des préparations pour le no deal.
Autrement dit, il n'y aurait plus de raison pour le consommateur britannique de craindre un scénario de sortie sans accord à la fin du mois d'octobre.
Oui, il y a toujours des raisons de. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Par exemple, on ne sait pas si les transports aériens vont avoir lieu comme on a d'habitude, ou bien s'il y a des difficultés pour les importations qui viennent par Calais-Douvres. Donc, il y a beaucoup de choses dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement si c'est réglé ou non.
Et évidemment, l'opposition s'en donne à cœur joie. Je lisais quelque part qu'une baronne travailliste, autrement dit une élue travailliste anoblie par la reine et qui siège donc à la Chambre des Lords, a prédit que, je cite, « on va manger des rats au barbecue si véritablement on sort de l'Union européenne sans accord ». Vivien Pertuzot, on voit qu'il y a véritablement lyrisme désormais dans le vocabulaire politique britannique. Mardi, la nouvelle présidente de la Commission, qui prendrait ses fonctions le 1er novembre, mais c'est bien mardi prochain qu'Ursula von der Leyen va présenter sa nouvelle équipe et probablement commencer à annoncer les priorités qui seront les siennes à partir du 1er novembre. Jusqu'à quel point est-ce que l'obsession du Brexit va continuer à peser sur le travail européen ?
Je pense que pour elle, ce sera assez simple. Elle voudra que ça se passe le plus rapidement possible pour que justement elle ait le moins de temps possible à consacrer au Brexit. De toute manière, peu importe ce qui se passe, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord au 31 octobre, la question du Brexit ne va pas complètement disparaître de l'agenda européen, parce qu'il faudra, s'il n'y a pas d'accord, il faudra quand même trouver un moyen de continuer les mesures de contingence au niveau européen. Donc c'est ce que la Commission a déjà commencé à annoncer cette semaine dans sa nouvelle communication.
Et obtenir le règlement de la facture du divorce, c'est-à-dire 43 milliards d'euros.
Oui, il y a ça, il y a le droit de circulation des personnes, des biens, etc. Il y a un certain nombre de sujets quand même qui vont forcément l'occuper. Mais la question, effectivement, pour elle, c'est de se débarrasser le plus vite possible du Brexit parce qu'il y a bien d'autres priorités. Et surtout, elle ne veut pas être la présidente de la Commission qui gère un mauvais Brexit, dans une certaine mesure. Après, il est très difficile, parce qu'elle ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer de l'autre côté de la Manche, il est très difficile pour elle de savoir quand précisément tout ça va pouvoir se terminer. Parce qu'effectivement, s'il y a un report, on est en janvier, les reports, on commence à avoir l'habitude, trois mois, ça peut durer longtemps comme ça.
Et avec une réécriture malgré tout de...
Il y a des choses qui changent, des petites choses qui changent. Alors après, il y a quand même un petit indice qui montre que vraiment la Commission commence à en avoir, on peut dire le mot, ras-le-bol de travailler sur le Brexit. C'est que la numéro 2 de l'équipe de Michel Barnier a quitté l'équipe avant l'été pour prendre un autre poste. Et c'est quand même elle qui était absolument instrumentale.
Sabine Weygand, qui est passée, je crois,
à la direction générale du commerce.
Du commerce. Ouais.
Et donc effectivement, elle était absolument instrumentale dans tout le travail de coordination des négociations, tout le travail de coordination des équipes de la Commission. Donc sans elle, je ne vais pas dire que rien ne peut se faire, mais c'était quand même un indice fort que c'est bon, on a fait le maximum, on ne reviendra pas sur tout ce qui a été décidé. Maintenant, c'est aux Britanniques de décider s'ils veulent l'accord ou pas.
Jusqu'à quel point la solidarité des 27, qui a été à peu près sans faille depuis 3 ans, c'est la seule question finalement, le Brexit, sur laquelle un tel consensus soit resté aussi solide, jusqu'à quel point est-ce qu'il risque d'y avoir néanmoins un effritement? On dit que les Hongrois, le Hongrois en particulier, pourraient faire des siennes ou...
Oui, après, enfin, il y a toujours eu des moments dans ces 3 dernières années où certains États membres avaient pu montrer quelques signes de désaccord par rapport à presque une forme de doxa. Pour le coup, on a une doxa européenne qui tient très très bien. Je pense que globalement, sur l'accord et tout ce qui a été négocié depuis 3 ans, la solidarité européenne tiendra. Il y a peu de chances que ça bouge, ça a été encore réaffirmé cette semaine. Il y avait eu quelques petits signaux lors de la rencontre entre Angela Merkel et Boris Johnson qu'on pourrait peut-être avoir une petite modification, etc.
Oui, Angela Merkel avait utilisé une formule relativement ambiguë,
etc. Bon, ça c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Je pense qu'on cherche surtout à trouver des failles dans tout le bloc européen, et pour le coup, cette faille n'existe pas là-dessus. Là où elle peut exister, c'est plus sur est-ce que les Européens sont prêts à continuellement accepter de nouveaux reports. Puisqu'effectivement, Thibault le disait tout à l'heure, c'est bien beau que les Britanniques demandent un report, mais pour ça, il faut que les Européens soient également d'accord pour ce report.
Et à l'unanimité.
À l'unanimité. Et on a vu que là, déjà, bon, Emmanuel Macron s'était prononcé publiquement en disant qu'à un moment, il était peut-être temps d'arrêter ce jeu. Il n'est pas totalement impossible que d'autres chefs d'État et de gouvernement aillent dans la même direction. Peut-être pas cette fois-ci, peut-être que c'est encore un peu tôt, ils veulent donner une chance, mais s'il y a report, je suis pas sûr qu'en janvier prochain, en 2020, c'est-à-dire plus de 3 ans et demi après le référendum, les Européens continuent d'accepter des reports sans avancée particulière du côté britannique.
D'autant qu'il faut toujours se souvenir qu'il s'agit d'un accord sur la manière de procéder
à la sortie.
À la sortie, c'est-à-dire véritablement un traité, pour l'appeler simplement, qui régirait en quelque sorte les relations futures entre la Grande-Bretagne, si elle sort, et l'Union européenne. Donc les négociations, elles seront ad vitam.
Ah ben, c'est sûr que là, pour le moment, on administre le divorce. On n'administre pas les relations futures. Et les relations futures, pour le moment, on n'en a pas la moindre idée. Donc là, tout est à faire. Donc effectivement, je disais il y a quelques jours à un diplomate européen qui disait, dans une certaine mesure, là, tout ce qu'on a vu sur le Brexit, c'est presque chose simple par rapport à toutes les négociations qui devront se faire après pour les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, s'il y a un accord.
S'il y a un accord. Thibault Arroy, vous travaillez en particulier sur les relations franco-britanniques. Jusqu'à quel point, selon vous, le président français, dans cette phase qui reste totalement incertaine, va encore faire figure, finalement, de pilier, de fermeté face au psychodrame britannique?
Alors, je pense que dans la démarche d'Emmanuel Macron actuellement, il y a le fait qu'il y a aussi une volonté de respecter le vote de 2016. On l'accuse parfois d'être un peu trop ferme vis-à-vis du Royaume-Uni, peut-être pour défendre des intérêts qui seraient ceux des Européens ou les intérêts de la France. Mais en réalité, il y a aussi peut-être un intérêt britannique à en finir avec cette histoire qui est sans cesse repoussée, qui n'en finit pas, et peut-être
ça, c'est l'argument de Boris Johnson, mais enfin dans oui, des termes
mais,
particulièrement
mais c'est-à-dire que chez il y a peut-être aussi oui mais peut-être que du côté de la France il y a cette idée que à partir du moment où le Royaume-Uni a voté pour sortir, il ne faut pas ignorer ce vote et que ça serait trop compliqué de revenir en arrière maintenant, qu'il faut aider à une sortie, éventuellement avec un accord, ça serait la meilleure solution évidemment, mais il faut sortir parce que si tout était annulé, alors on aurait véritablement un peuple hostile à l'Union européenne et que les relations futures ne seraient pas meilleures avec le Royaume-Uni. Et il faut pas oublier qu'en France, il y a quand même quelque part cette idée que le vote populaire de 2005 aurait été ensuite ignoré lorsque le traité de Lisbonne avait été adopté, et on a une volonté de ne pas reproduire ce même genre d'attitude vis-à-vis d'un vote populaire.
Mais on en vient toujours à... Il est vrai que nous l'avons éprouvé, nous, dans notre vie politique, cette espèce de contradiction entre le référendum et le processus parlementaire. Et c'est bien là, Agnès-Alexandre Collier, ce qui véritablement provoque ces convulsions, ce spasme dans un système politique, encore une fois, admiré depuis si longtemps. On voit bien que le référendum n'est pas compatible avec un système parlementaire.
Absolument, le référendum n'est pas compatible avec cette démocratie parlementaire qui fonctionne sur le principe de la souveraineté du Parlement. C'est-à-dire l'un des principes écrits de la constitution non écrite du pays, hein, qu'on retrouve dans le Bill of Rights de 1789, que le Parlement est souverain. Et là, on voit effectivement un système politique qui, depuis la fin des années 90 avec Blair et les premiers référendums sur la dévolution, qui fait du référendum un nouveau mode de pratique gouvernementale dans un pays qui n'est pas équipé et dans une société qui n'est pas forcément, qui est peut-être encore moins équipée pour voter lors de ce genre de consultation que la France, par exemple. Donc on a une espèce de tension entre ces deux systèmes qui s'accroît avec le fait que la Constitution n'est pas écrite au Royaume-Uni, et que donc ça donne l'impression que les politiques tâtonnent en permanence en fonction des conventions dont ils disposent, en fonction des quelques textes législatifs qu'ils ont, sans pour autant s'appuyer sur une codification précise qui leur permettrait de fonctionner de manière plus efficace.
Ce qui est singulier néanmoins dans la représentation électorale telle qu'elle siège aujourd'hui à la Chambre des communes, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus de centre droit, puisque Boris Johnson a radicalisé le Parti conservateur en le poussant vers la droite et en expulsant, encore une fois, il y a quelques jours, 21 membres représentant, encore une fois, de cette tendance historique du Parti conservateur. Et il n'y a plus non plus de centre-gauche, parce que d'une certaine manière, Jeremy Corbyn, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, apparaît comme une figure plus radicale, plus gauchiste, dirions-nous, chez nous, que la tradition du Labour. Et donc là, on est dans un schéma qui favorise en fait le jeu de Boris Johnson, qui est un jeu populiste à l'état pur. Parce il commence à le dire. En gros, les parlementaires sont des traîtres, des collabos. Et face à cela, les élites, les représentants des élites, les élus, sont vendus à Bruxelles.
Oui, j'allais dire que effectivement, on est dans cette logique apparente où le Parti conservateur est en train de se radicaliser, le Parti travailliste l'est aussi. Depuis, en particulier aussi la faillite du modèle blairiste, qui a permis ou a ouvert la voie en tout cas à l'élection de quelqu'un comme Jeremy Corbyn en 2015. Mais comment dire, je serais peut-être un peu plus optimiste sur la capacité des partis britanniques à se réinventer. D'une part, Boris Johnson n'est pas éternel. Et il faut peut-être essayer justement de se projeter dans les 20 années qui viennent.
Ou même se projeter jusqu'à lundi, parce qu'il pourrait tomber voilà, lundi, mais il ne disparaîtra pas de la vie politique britannique.
Sans doute pas, mais j'ai tendance à croire que l'une des capacités d'un parti comme le Parti conservateur, c'est d'être capable de s'adapter aux circonstances, d'évoluer et de se réformer paradoxalement par rapport à ce qu'on pense du conservatisme. Donc, pour autant, je ne vois pas le Brexit comme la fin des grands partis majoritaires britanniques, mais je peux peut-être me tromper et l'avenir nous le dira.
Et puis, vous nous le direz aussi, parce que vous serez évidemment sollicité à nouveau pour nous expliquer tout cela. Merci. Merci à vous, donc Agnès-Alexandre Collier, professeur en civilisation britannique à l'Université de Bourgogne, en délégation CNRS à la Maison française d'Oxford. Merci à Ian Begg de la London School of Economics. Merci à Jonathan Fenby. Merci à vous, Thibaut Arroy. Vous avez participé à un ouvrage qui s'intitule « Partir en solitaire, conséquences du Brexit aujourd'hui et demain » aux éditions Panthéon Assas, c'était l'an dernier. Merci à Vivien Pertuso. Je rappelle que vous signez dans Ramsès, qui est cet énorme rapport tout à fait passionnant, publié par l'Institut français des relations internationales sur les grands enjeux de l'année 2020. Qui ai-je oublié? Personne. Merci à Madame Mostafavi de Courrier International, courrier qui consacre sa une cette semaine sous l'intitulé Brexit, le clash. À la réalisation ce matin, Luc Jean Reynaud, à la technique Clément Daté, Hugo Boursier m'a aidé à préparer cette émission et maintenant, comme chaque samedi, Hervé Gardette va vous retrouver et il va prolonger notre discussion en s'intéressant avec le constitutionnaliste Denis Barranger aux aspects institutionnels de la crise britannique. Merci, très bon week-end, à samedi prochain.